grand événement qui nous attend le 13 janvier.
Oui, dans le fond, c'est un TEDx, peut-être pour le bénéfice de tout le monde. Ce sont des conférences très particulières. Ce sont des conférences à 18 minutes ou moins, organisées par cette grande organisation qui chapeaute les tout, qui est TED. Et puis nous, on a appliqué pour une licence en éducation, une licence TEDx, puis on l'a eu. Fait qu'on va organiser cette TEDx Ville-Marie en éducation le 13 janvier prochain avec, non pas 16, mais 14 conférenciers cette fois-ci. On en a deux qui ont des petits soucis de santé. Ah. Fait que, mais par contre, la moitié, ce sont effectivement des jeunes. Donc, on aura 7 adultes et 7 jeunes qui viendront nous partager des idées sur comment on peut mieux préparer les générations à l'avenir. Quels sont les outils, les compétences dont ils auront besoin?
Bravo pour cet effort d'inclusion, contrairement à d'autres termes où on n'inclut pas les personnes directement concernées.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, comment vous avez fait ce choix de l'imprévisibilité?
Alors, pour cette première édition, c'est ça, on parle de cette notion qui peut sembler a priori un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Apprivoiser l'imprévisible, mais grosso modo, ce qu'on entend, c'est il ne faut pas résister au changement. On le sait, on vit dans cette société des changements continuels. On l'a vu depuis un an, l'explosion de l'intelligence artificielle. On voit les guerres, n'est-ce pas, qui ressurgissent d'un jour à l'autre. Donc, je pense que les prochaines générations auront besoin d'adopter une posture de flexibilité face au changement versus la résistance. Donc, on voulait vraiment l'accès là-dessus. Et puis, on a mis ces petits jeux de mots, n'est-ce pas, apprivoiser l'imprévisible tout simplement pour attirer l'attention puis jouer sur cet aspect-là.
Et pourquoi on remet en question la façon dont on éduque? On l'a vu, là, il y a eu dans le milieu de l'éducation plusieurs soubresauts dernièrement qui revendiquent des meilleures conditions. En quoi l'école doit changer, Federico?
Écoute, Chantal, ça,
c'est une vaste question.
On pourrait parler pendant plusieurs jours. Mais je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on a un modèle qui a peu changé depuis une centaine d'années. Et les changements dans la société ont tellement accéléré pendant ces dernières années qu'on est à un point d'inflexion bien important. Moi, je suis pas un expert en éducation, mais mon point de vue très personnel, je vois un certain nombre d'échanges. D'abord, je pense qu'on va passer d'un système beaucoup moins axé sur les connaissances et beaucoup plus axé sur les compétences.
Oui.
Déjà, les systèmes comme ChatGPT et autres, on le voit à la demande, ils peuvent nous fournir un grand nombre de connaissances et ça va juste s'améliorer, c'est pas fini avec le temps. Oui, tu avais une question là-dessus?
Bien, en fait, c'est ça. C'est que là, ça nous fournit des connaissances, mais comment bien utiliser ces connaissances-là? C'est là où on a besoin de développer plus de jugement, plus d'empathie, approche plus inclusive.
Exactement. Oui. Exactement. Tout ce qu'on appelle les grandes compétences du 21e siècle, la bienveillance, l'empathie, l'entraide, et tout ça peut prendre la forme des projets en classe, des projets qui viennent d'une certaine manière combiner ses compétences et ses habiletés des jeunes avec un défi, parfois aussi à la fin. Nous, on croit beaucoup à ce type d'approche-là. Deuxième, à mon avis, c'est qu'on trouve, puis ça, on en a déjà parlé ensemble, plus des plaisirs et des sens. Notamment au secondaire, puis j'ai eu la chance de parler à beaucoup de jeunes ces deux dernières années, ils trouvent que c'est comme une salle d'attente à l'hôpital. C'est interminable, ils font juste attendre pour regarder leur téléphone. Fait qu'il faut que le modèle, l'expérience de l'école soit attrayante pour les jeunes. Il faut qu'ils arrivent à apprendre à une immersion, un projet, à apprendre sans se rendre compte qu'ils sont en train d'apprendre essentiellement. Puis troisième changement que moi je vois, puis encore une fois, c'est un point de vue très personnel, c'est cette perception de la carrière d'enseignant. On le voit, les statistiques sont claires là-dessus. 40 % des nouveaux enseignants vont se réorienter après 4 ou 5 ans de métier seulement.
40 %,
c'est presque la moitié. Donc, on va frapper un mur si on continue comme ça c'est certain. Et c'est notamment lorsqu'on pose la question, ils nous disent, mais on sort avec énormément de théories, des passions, des volontés, et là qu'on constate à quel point le système est rigide bien, ils sont découragés. Puis aujourd'hui, il y a plus d'options qu'avant. Donc, il faut, d'une certaine manière, redonner les lettres de noblesse à cette profession. Il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui de la part des profs. Hein.
On l'a entendu dans les médias ces derniers temps. Donc, ce que j'entends, Federico, c'est aussi l'enseignement et l'éducation des futurs enseignants qui doivent aussi être vus.
Tout à fait. Cette génération d'enseignants, ils veulent avoir une latitude. Ils veulent pouvoir essayer des nouvelles choses. Ils veulent pouvoir avoir une certaine liberté. Et donc, il faut s'ouvrir à ces nouvelles possibilités. Il faut créer les conditions pour qu'ils puissent s'épanouir là-dedans.
Il y a trois conférenciers, Federico, qui parlent justement des ingrédients pour un meilleur système d'éducation. Une conférencière jeunesse, Josiane Melançon, qui parle justement de plus de flexibilité. Il y a un jeune, Félix-Antoine Manoury, 10 ans, qui a dit aussi là, qu'il y a une suggestion d'avoir des cours sur le respect. Et vous aurez d'ailleurs une spécialiste là, de l'empathie comme conférencière?
Oui, tout à fait. Donc, Josiane Melançon, elle nous vient d'un petit village du Nouveau-Brunswick. Donc, elle est passée à travers un programme un peu particulier où ce qu'elle a pu expérimenter avec la flexibilité à l'école. Fait que je peux pas lui voler le punch, mais elle va élaborer là-dessus. On a le jeune Félix-Antoine qui vient tout juste d'avoir 10 ans.
Wow.
Et qui est un jeune du primaire qui nous demande des cours de respect à l'école, des cours de respect des autres. Respect de soi, respect de l'environnement. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Et puis, on a une chercheuse en empathie, Anita Nowak, chercheuse de McGill, qui va nous parler non seulement de la théorie, mais d'expérience très personnelle, où est-ce qu'elle a eu à faire face à des situations, où est-ce qu'elle a mis l'empathie en pratique. Mmh. Mais on a aussi des gens comme Isabelle Sénécal, qui est directrice collège secondaire à Dorval. À Sainte-Anne, oui. Puis elle, avec son équipe, elle a fait les tours de la planète. Elle est allée au Japon, elle est allée en Finlande, puis ailleurs. Puis elle a vu ce qui se faisait des mieux comme pratique. Fait que dans la nouvelle école, par exemple, il n'y a pas de cloche. Les cours sont croisés. Donc, vous voyez, il y a des gens qui osent, qui ont le courage, puis ils essayent des nouvelles approches.
Et vous avez aussi le professeur de l'année 2020 en Suède, Philippe Longchamp. Qui va aussi nous parler des approches gagnantes un peu partout, j'imagine, sur la planète.
Oui, il va aborder évidemment l'approche un peu scandinave, mais il va particulièrement développer la compétence de pensée critique.
Oui.
Donc, puis on le sait, hein, avec ce monde-là où est-ce qu'on a tellement d'intelligence artificielle qui nous pousse de l'information partout, c'est extrêmement important pour les jeunes de pouvoir avoir cet esprit critique. Est-ce la désinformation? Est-ce qu'il y a des biais à travers ça? Et si oui, comment je peux réagir face à ça? Donc, c'est là-dessus que sa conférence va pointer.
Parce qu'on parlait tout à l'heure de la différence entre les connaissances et les compétences. J'imagine que la pensée critique nous permet de faire le tri dans toute l'information auquel on a désormais accès.
Exactement. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, l'information, il y en a. Et en plus, on sait, elle va exploser davantage.
Mm-hmm.
Donc, c'est extrêmement important. Puis on a des gens comme Luc Sirois aussi, n'est-ce pas, l'innovateur en chef du Québec, qui va être interviewé par trois jeunes, puis qui va aborder aussi cet aspect d'intelligence artificielle, mais aussi qu'est-ce que ça va prendre à les métiers de demain. Mm-hmm. Puis oui, la pensée critique, ça en est une. Mais ce n'est pas que ça. On veut des gens qui sont capables de travailler en équipe. Donc, ce n'est pas parce que nécessairement tu as eu des bonnes notes à l'école, donc tu as su répondre à une attente, un objectif de l'école, que tu es nécessairement plus outillé pour être un bon coéquipier plus tard, pour bien communiquer, pour bien présenter tes idées, pour être plus sensible, empathique face à tes collègues. Donc, c'est un dialogue, comme tu peux voir, très diversifié autour de l'ensemble des compétences que ça va prendre plus tard pour ces jeunes-là.
Federico, j'évolue avec intérêt dans le milieu de la créativité, de l'innovation et on a eu l'occasion effectivement de collaborer. Tu étais venu à mon émission Au fil du temps sur la transmission intergénérationnelle. Alors, je suis familière avec le concept de l'innovateur en chef du Québec, mais je suis convaincue que c'est nouveau pour beaucoup de nos auditeurs. Peux-tu nous expliquer ce rôle?
Donc, Luc Sirois, c'est le tout premier innovateur chef du Québec. Ça fait à peine 3-4 ans qu'il a été nommé. Et puis, on est arrivé, comme on le disait tantôt, à un point d'inflexion. On s'est dit, ça devient tellement crucial pour nos entreprises, puis nos écoles et l'ensemble de la société d'innover qu'on va nommer un chef, comme on a un chef scientifique, comme on a des tels types de ministères, dont son équipe est responsable d'accompagner différents secteurs, montrer ce qui se fait de mieux au niveau des nouvelles pratiques, commercialisation, innovation, créativité, puis essentiellement être cet engrenage central qui va donner une cohérence, une sens dans toutes les orientations que le gouvernement veut faire. Donc, on sait qu'on veut investir en intelligence artificielle, mais comment peut-on le faire de manière éthique et responsable? Voici un des grands rôles de Luc Sirois, notre innovateur en chef.
Il a tout un chantier devant lui.
Oui, pour plusieurs années, mettons.
Federico, on prend une courte pause et ensuite, j'aimerais peut-être parler de l'approche plus inclusive que doit prendre le milieu de l'éducation.
Excellent.
Nous sommes de retour avec Federico Puebla, l'un des organisateurs de la conférence TED Talk sur le futur de la jeunesse et de l'éducation qui aura lieu à la Place des Arts samedi le 10 janvier prochain. Alors, Federico, on parlait un petit peu des différentes compétences que le milieu de l'éducation doit développer et j'entends que plusieurs conférenciers vont aborder d'une manière ou d'une autre la nécessité d'avoir une approche plus inclusive en milieu scolaire.
Oui, tout à fait. Et notamment dans certains milieux, comme tout ce qui est ingénierie et technologie, ça reste quand même aujourd'hui un milieu assez masculin.
Oui.
On a par exemple la jeune Ontarienne Babichia, qui est une jeune de 12 ans, scientifique. Elle a remporté un concours de l'Agence spatiale canadienne en programmation. Puis elle va nous présenter un petit peu comment elle verrait un futur où est-ce que les jeunes filles prennent plus de place en sciences et en technologie, pas juste au Canada, mais dans le monde ailleurs. On a Stéphanie Chicroix, évidemment, qui est notre responsable de Technovation à Montréal, qui va aussi aborder ces sujets-là. Donc, c'est sûr que la place des jeunes filles, notamment en technologie, dans un monde qui devient de plus en plus technologique, va être au cœur des discussions. Mais on s'entend que l'inclusion est beaucoup plus large que ça. On a des jeunes comme Juan Daniel Medina, qui est passé par le système des classes d'accueil.
Issu du Honduras, qui a immigré ici du Honduras.
Du Honduras, qui était au secondaire lors des classes d'accueil, et qui essentiellement conclut que le modèle actuel des classes d'accueil, mais ça finit quelque part par n'est pas aidé à l'intégration.
Ah.
Donc lui, il va parler plutôt des classes d'immersion ouvertes. Il va nous parler des histoires vécues, puisqu'il a fait un documentaire pour donner une voix à ces jeunes-là. On a plusieurs participants qui vont aborder l'inclusion des différents angles, immigration, place des jeunes filles, et puis aussi des maladies, des handicaps. Je parlais tantôt de Christian Leblanc, donc je ne veux pas nommer sa maladie, il va en parler pendant son TikTok, mais pour lui, il en a fait son allié. Il s'est réconcilié, puis il en a fait même sa force. Puis aujourd'hui, il est directeur dans la Fédération des établissements d'enseignement privé. Donc, vous voyez, c'est très large l'approche à l'inclusion pour lors de cet TEDx.
Mais d'ailleurs, on a eu en première partie de l'émission la directrice générale du regroupement de la trisomie 21 et on voit que c'est un enjeu justement d'accueillir ces jeunes-là qui ont des défis d'apprentissage en classe.
Tout à fait. C'est un défi de plusieurs manières. Puis moi, je trouve que c'est une belle image de notre 21e siècle aussi. Je trouve que ça reflète les nouvelles valeurs que de plus en plus d'organisations sont en train d'adopter, mais ça prend du courage, n'est-ce pas? Ça prend des gens en haut de l'organisation qui réalisent que c'est une force, que lorsqu'on intègre des gens des différents milieux, mais on va être plus sensible, puis des employés plus sensibles, mais ce sont des employés plus productifs et plus heureux au boulot. Fait que moi, je suis contente de la tangente. Je pense qu'il faudrait accélérer cette tangente-là.
Il y a un des conférenciers, Christian Leblanc, qui mise justement sur les approches inclusives et il introduit un terme dont j'apprends justement j'apprends un peu l'existence, les CUA, la conception universelle de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est?
Mais je suis à la même place que toi, Chantal. Je vais apprendre qu'est-ce que c'est lorsque je vais l'entendre. Lors du TEDx. D'ailleurs, Christian, c'est lui qui a ouvert la conférence le samedi matin. Et ce que je sais, par contre, c'est qu'il en a fait sa thèse d'études. C'est un expert au Québec dans le volet des approches accessibles et inclusives. Donc, je t'encourage, si jamais tu as la chance de venir, d'écouter Christian à ce sujet-là.
Absolument. Mais je voyais aussi dans la liste des conférenciers que il y a aussi une jeune Morane Charbonneau, étudiante au Cégep, qui elle on parle un peu de la trisomie 21, donc des élèves qui ont une déficience intellectuelle, mais à l'inverse, il y a des jeunes qui sont de haut potentiel qui parfois s'ennuient en classe, qui n'arrivent pas donc à exprimer leur plein potentiel eux non plus.
Tout à fait. Et ça, c'est un sujet presque tabou, je dirais, dans le sens que tu trouves souvent ces jeunes-là au potentiel. Ah, ils réussissent bien en classe, donc il n'y a pas de problème. Comme si la vie d'un jeune ne se résumait qu'à une note, essentiellement, en bas de page. Donc, cette jeune-là en particulier, elle a passé très proche de décrocher. Okay? Mais elle est allée plus loin, puis là, je ne veux pas en dévoiler encore une fois trop, mais elle est allée voir la direction de l'école. Elle a proposé une nouvelle approche. La direction a accepté qu'elle essaye, puis elle est restée, puis elle s'est accrochée, puis aujourd'hui, elle est rendue au cégep. Donc, vous voyez, elle va nous montrer l'autre côté de la médaille. Il y a énormément de souffrance chez ces jeunes-là doués, et c'est important qu'on en tienne compte aussi, n'est-ce pas?
Mais c'est que c'est un terme au potentiel ou douance qui, en partant, en tout cas à mon avis, c'est un terme qui crée déjà un certain écart, une certaine différence, comme si on se perçoit ou les gens nous perçoivent mieux qu'un autre, alors qu'effectivement, il y a beaucoup de souffrance dans ce décalage-là.
Il y a énormément de souffrance, on n'en parle pas assez, et trop souvent, si on est dans une culture qui est basée purement sur la performance, bon, ça va des signaux faibles, on ne les verra pas passer. Oui. Mais si on est dans une culture, une école, un milieu qui est basé sur la bienveillance, l'écoute et l'empathie, c'est là où on va être sensible à ces gens-là, puis on va aller au-delà des choses sur une note. Et je pense qu'encore une fois, il y a une bonne tendance à aller dans ce sens-là, mais on peut faire beaucoup mieux.
Je sais, ben j'imagine aussi qu'avec tout ce bagage-là renouvelé en éducation, on devient de meilleurs citoyens. Et je crois que vous voulez aussi aborder à travers cette journée-là comment l'école nous prépare à devenir de meilleurs citoyens.
Mais moi, je pense que c'est un peu le but de l'école en soi, n'est-ce pas?
trop tellement
souvent,
d'accord.
on est passé à travers l'école pour avoir des bonnes notes, pour être accepté dans un bon secondaire, puis un bon cégep, puis une bonne université, un peu à la véglette. Essentiellement, on se rend compte qu'on peut changer 14 fois de carrière plus tard, donc on se pose des questions. Pourquoi on se met tellement de pression auparavant? Mais moi, je pense fondamentalement, c'est ça le but de l'école. C'est nous préparer à être des bons collègues de travail, des bons citoyens qui contribuent à la société. Aujourd'hui, on peut contribuer de tellement de manières. Donc grosso modo, moi, c'est ma définition de l'école même. Ensuite, évidemment, on peut se spécialiser, puis ces spécialisations vont rester, évidemment. Mais je pense que moi, c'est ce que je souhaite pour mes enfants, n'est-ce pas? Qu'ils deviennent juste des citoyens qui contribuent puis sentent une plénitude à travers ce qu'ils font.
Federico, il y a deux autres personnes que j'ai très hâte de voir. D'abord, Martin Carly, que j'ai eu le plaisir de recevoir à ma précédente émission Au fil du temps. Et Chantal Petitclerc, l'honorable Chantal Petitclerc, ex-athlète paralympique, elle a dû faire preuve énormément de résilience. On parlait d'handicap, le Canalem, on est la voie de l'inclusion. Donc, perdre l'usage de nos jambes à 13 ans, ça demande beaucoup d'adaptation dans notre quotidien. Et elle est un exemple parfait d'une personne qui a trouvé une passion à travers le sport et qui a pu atteindre son plein potentiel.
Oui, tout à fait. Alors, Martin Carly va faire une expérience scientifique sur scène avec les jeunes. Mm-hmm. La sénatrice Chantal Petitclerc, malheureusement, c'est elle qui a un petit souci, ne pourra pas être là. Oui. Ceci dit, on est en train de voir si jamais on pourrait faire une petite vidéo pour l'entendre. Mm-hmm. Elle ne sera pas présente au Canada même pendant ce temps-là, mais tu as tout à fait raison. Ne serait-ce que son parcours, c'est un parcours de résilience, c'est un parcours d'adaptation, c'est un parcours des disciplines aussi, hein, parce que c'est un sujet qu'elle voulait aborder dans un monde où ce que tout est... On vit dans un monde d'instantanéité, n'est-ce pas? On veut accéder à quelque chose, on peut écouter une série au complet, on veut se commander quelque chose en ligne, on l'a des mains à la maison. Mais dans ce monde-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui vont toujours demander un effort. Il y a des choses qui vont demander de se dépasser. Puis elle incarne cet esprit-là de dépassement de soi. Puis les 24 ou 26 médailles olympiques, je m'en souviens plus, c'est pas un hasard, hein? Dont la moitié en or. Fait que c'est une grande fierté au Québec, cette dame.
Absolument. Elle est très inspirante. Federica, on parle de la vitesse, entre autres dans les médias sociaux, où on envoie un texto, on envoie un Messenger, un TikTok, un Instagram, on veut une réponse tout de suite. Il n'y a pas aussi le fait de cette vitesse-là qui nous empêche parfois dans nos réponses de faire preuve de l'empathie dont on devrait faire preuve. Il me semble que nos jeunes sont plongés dans un monde où il y a de plus en plus d'intimidation. Et toi et moi, on est d'une génération similaire où au moins quand on arrivait à la maison le soir, on avait un petit peu la paix. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ça se poursuit sur toutes leurs plateformes technologiques. Comment le monde de l'éducation peut adresser ceci?
Alors, tu as tout à fait raison, hein. Puis moi, je viens d'une époque où est-ce que on écrivait des lettres à la main, hein, pour communiquer avec quelqu'un. Puis ça nous forçait, ça provoquait la réflexion. Oui. On prenait le temps, n'est-ce pas?
Fallait vouloir aller chercher une enveloppe, un timbre, aller la poster. Habituellement, si on était fâché, on avait le temps de se calmer.
Oui, c'est ça. Et de réfléchir davantage. Oui. Mais alors, évidemment, il y a des bonnes choses sur mon instantané aussi. Ceci dit, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de déconnexion. Mm-hmm. Et ça, je pense que le rôle de l'école, entre autres, pas que de l'école, n'est-ce pas, le gouvernement, les parents, on joue tous un sport d'équipe, l'éducation. Je pense qu'on doit éduquer les jeunes à se déconnecter des manières thématiques et qu'ils intègrent cette capacité. On le voit dans le monde du travail, il y a des organisations qui, de telle heure à telle heure, il n'y a pas d'envoi de courriel. On laisse un moment où est-ce que le cerveau, à ce moment-là, mais il peut avancer, se concentrer, etc. D'ailleurs, on a une jeune, Zoé Galerec, qui, elle va parler du silence. Dans ce monde frénétique dans lequel on vit, comment c'est important de se réconcilier avec cette petite voix intérieure, puis parfois, que ce soit à l'école ou ailleurs, on peut soi-même retrouver un certain équilibre à travers les silences. Donc, celle-là, j'ai hâte de l'entendre et de la vivre.
Absolument. C'est un programme fort stimulant qui nous attend ce samedi 13 janvier à la Place des Arts. Peut-être simplement nous donner le lien, Federico, et nous dire en quelques mots l'organisme, l'entreprise que tu as créée, Créativité Québec. Qu'est-ce que vous faites?
Oui, donc depuis 2 ans, j'ai cofondé Créativité Québec. Essentiellement, on crée des jeux sérieux pour accompagner les milieux d'éducation et professionnels. Donc, en éducation, que ce soit les enseignants ou les élèves, on offre des jeux créatifs dans lesquels les gens ont des défis à relever ensemble. Donc, ils peuvent justement mettre en pratique ces compétences dont on parlait tantôt. Ils ont à présenter leurs idées publiquement. Ils ont à les concevoir, à se challenger, comme on dit, entre eux. Et puis, on va plus loin. On partir de ces jeux-là comme un sport, mais on bâtit une ligue par-dessus. Donc, non seulement les jeunes peuvent apprendre et développer ces compétences, mais dans le temps, ils peuvent s'améliorer. Il y a une évolution. Donc, il y a des classements, il y a des play-offs. Il y a les championnats de créativité du Québec. On travaille aussi pour l'année prochaine. Donc, voilà un petit peu c'est ce qu'on fait.
Donc, la Ligue de créativité du Québec. Et donc, je comprends que tout ce travail d'organisation de l'événement TED Talk, c'est un travail que tu accomplis bénévolement.
Tout à fait. Donc, d'ailleurs, tous les TEDx dans le monde, c'est des initiatives bénévoles. Hein. Il y a plus de 3000 TEDx par année dans le monde et ce sont des dizaines et des centaines parfois de bénévoles derrière chaque TEDx. Dans notre cas, c'est plus de 1000 heures bénévoles qui ont été investies. Et puis, donc, une partie de mon équipe chez Créativité Québec, qui l'offre, mais on travaille avec des dizaines de bénévoles de tous âges, tous origines, mais avec ce fil conducteur qui est de se dire qu'on peut faire mieux et on doit travailler en équipe en éducation. Il faut qu'on offre les meilleurs outils et les meilleures compétences aux prochaines générations. Donc, pour nous, on a extrêmement hâte au samedi de la semaine prochaine pour vivre cette expérience. Première édition.
Oui, on y sera avec plaisir. Merci beaucoup, Federico Puebla, d'avoir été avec nous.
Merci à vous autres.
Au plaisir. Au revoir.